Bonsoir. Le 30 juin de cette année 2024, la République démocratique du Congo va totaliser 64 ans depuis son accession à la souveraineté internationale. Et depuis lors, le pays a régulièrement alterné moments de stabilité et instabilité. Moins de 5 mois après l'indépendance, par exemple, le président de la République et le Premier ministre se sont mutuellement désavoués. Le Premier ministre sera assassiné en 1961 et Mobutu Sese Seko prend le pouvoir de force en 1965. Les grosses vagues d'insécurité commencent en 1996 jusqu'à ce jour, avec un bilan estimé à plus de 10 millions de Congolais tués par ces cycles incessants d'insécurité, particulièrement dans les Kivu et la province de l'Ituri. Sur le plan économique, si pendant les premières années de l'accession de la RDC à l'indépendance, elle avait l'une des économies solides du continent africain, elle a cependant considérablement régressé pendant les 50 dernières années. Sur le plan politique, le pays a positivement enchaîné 20 années successives pendant lesquelles le président de la République et les institutions du pays sont élus tous les 5 années par des élections. Quelle analyse faire de l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire de la RDC pendant ces 64 années d'indépendance? Et comment envisager un meilleur avenir? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, nous recevons Thomas Louaka, passionné de l'histoire de la République démocratique du Congo, député honoraire, national honoraire, ancien président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre de la République démocratique du Congo. Thomas Louaka, bonsoir.
Bonsoir.
Également dans cette émission de ce soir, Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Et pour compléter la composition de ce soir, Moïla Tiembe, professeur, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Moïla Tiembe, que nous avons le plaisir d'accueillir depuis l'étranger. Moïla Tiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Moïla Tiembe, donc, merci donc à tous d'être présent pour cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Vous venez de l'entendre, le 30 juin, dans quelques jours de cette année 2024, la République démocratique du Congo va totaliser 64 années depuis son accession à la souveraineté internationale. Et depuis, le pays a régulièrement alterné bon moment comme moment de difficulté. Nous allons, pour illustrer cela, écouter le témoignage d'un contemporain de cet événement, Léonard Kabeya Tshikuku, professeur de sciences économiques, au micro de Blaise Ndongala.
C'était une journée mémorable, parce qu'on ne s'imaginait pas que le soleil pouvait se coucher ce jour-là. Parce que nous avons suivi par la radio tout ce qui se déroulait à Léopoldville. Et même avant l'arrivée du robot, les 2 semaines qui précédaient étaient des semaines intenses, dont nous gardons un souvenir très attachant. Les Congolais avaient besoin de leur propre liberté, ils avaient besoin de leur propre souveraineté pour peser dans la course, dans la marche collective de construire notre propre destin. Un destin de grande nation et d'un peuple libre. Il y a des pans entiers où nous sommes des hommes. Mais cela ne doit inquiéter personne, surtout pas la jeune génération. Parce que la durée sur laquelle un peuple peut se reprendre et reprendre son destin en main, cette durée n'est pas la durée à confondre avec la vie d'un individu. Les peuples comptent des siècles. Les peuples comptent des demi-siècles.
Thomas Louaka, passionné de l'histoire de la République démocratique du Congo, député national honoraire, ancien président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre du pays. Dans l'introduction de cette émission, nous avons tenté un résumé, un condensé de ce qu'on peut retenir de ces 64 dernières années. Ce serait prétentieux de notre part de penser que nous avons dit ce qu'il fallait dire. Nous avons donc l'occasion d'avoir cette composition de ce soir pour essayer d'éclairer davantage. Vous, passionné de la RDC, plusieurs fois aux fonctions de ce pays, en 64 ans, où on peut dire que la RDC a été laissée entre les mains de ses propres fils, quel bilan vous pouvez en faire?
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. ce que je peux dire honnêtement, 64 ans d'indépendance, on peut dire, on peut s'exclamer en disant quel gâchis. Quel gâchis, juste quelques exemples simples. En 60, les gens parfois, les jeunes aujourd'hui ne le savent pas. Vous avez parlé du premier ministre Patrice Lumumba. Il a tenté de fuir Kinshasa pour aller à Kisangani en voiture. En 1960, il était possible de partir de Kinshasa à Kisangani en voiture. 64 ans plus tard, c'est impossible. On ne peut pas le faire. On pouvait quitter Lubumbashi en voiture jusqu'à Bukavu, Bukavu-Kisangani. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Pas seulement, il n'y a pas de route, mais en plus, il y a l'insécurité qui règne là-bas. Sur le plan économique, vous savez, aujourd'hui, nous sommes classés parmi les quatre pays les plus pauvres au monde. Donc, on peut dire, en bref, que nous avons raté notre indépendance. Parce que beaucoup de gens ont parié sur nous. Que le Congo devrait être la locomotive de l'Afrique. Frantz Fanon disait d'ailleurs que le Congo c'est la gâchette d'où partira le développement de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes la risée de tous nos voisins.
Alors, justement, vous allez le découvrir, hein, ce n'est pas nous qui allons faire le bilan, nous, en tant que Radio Okapi, mais nous allons donner à l'opinion l'occasion de se rendre compte de ce que, justement, les uns et les autres qui prennent la parole à l'occasion de cet événement disent. Et vous allez justement le constater que, globalement, malheureusement, tout le monde a plus ou moins le témoignage que vous faites. En gros, justement, quel gâchis. Mais vous, par exemple, qui avez occupé des fonctions, y compris très élevées dans le pays, est-ce que vous vous sentez responsable?
Oui, je suis responsable. En fait, voici ce qui se passe. À l'accession de notre pays à l'indépendance, on n'est pas formé, on n'est pas préparé. Ce qu'il faut savoir, que les Belges, avant leur départ, n'avaient pas formé un seul médecin. Il n'y avait pas de médecin congolais. En 1960, on n'avait pas un seul médecin, on n'avait pas un professeur d'université, on n'avait pas des officiers dans l'armée, donc on n'était pas préparé. Mais il fallait, l'histoire suivait son cours, il fallait qu'on accède à l'indépendance. Lorsqu'on accède à l'indépendance, on va commencer à se débrouiller. Et cette débrouillardise va créer une culture qui est nocive jusqu'à aujourd'hui, qui nous empêche d'aller de l'avant. Et juste pour illustrer ce que je suis en train de dire, la culture qui consiste à considérer la politique, c'est ça la définition de la politique au Congo, c'est la lutte pour l'accès aux ressources du trésor public. Donc les gens se battent, et comment vous vous rendez compte que c'est ça vraiment l'objectif? C'est lorsqu'il y a répartition des responsabilités, il faut suivre les mécontents. Ah, les mécontents qui passent dans les médias, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne nous sommes pas retrouvés. Donc, les gens ne font pas la politique pour que les pays avancent. Les gens font de la politique pour qu'ils se retrouvent. J'ai ma part de responsabilité personnelle parce que c'est une culture que nous devons combattre ensemble. Les gens font l'erreur de considérer. On essaie trop de personnaliser. À l'époque, sous la Deuxième République, tout le monde disait les mâles zaïrois, c'était Mobutu. Mobutu est parti, les mâles a persisté. Laurent Désiré Kabila est venu, on a dit c'est lui les mâles. Il est parti. Joseph Kabila, celui que tu sais qui est là, il partira. Mais si nous n'échangeons pas notre façon de faire de la politique, on peut devenir comme l'Haïti. Et les professeurs parlaient tout à l'heure, la durée d'une nation, il ne faut pas comparer, non. Et l'Haïti, ça fait plus de 2 siècles qu'Haïti, ils sont indépendants, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il ne faut pas que la RDC devienne l'Haïti de l'Afrique. C'est-à-dire, 2 siècles après, on est en train de tourner en rond. Donc, j'ai dit, il y a le mal qui est profondément ancré chez nous, c'est notre façon de faire la politique, où il y a du tribalisme, du clientélisme, du népotisme, tous les mots, la corruption, tout ce que vous connaissez.
Mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi peut-être notre sensibilité qui est mentionnée aujourd'hui comme étant un échec, on vous parlait de népotisme, de tribalisme, c'est des éléments qui sont comme émotionnel, comme faisant partie de notre nature de Congolais. Comment est-ce que ces éléments qui, ailleurs, on imagine bien que ailleurs les gens sont aussi des êtres humains, ils ont quelques éléments émotionnels, comment ailleurs on arrive à transcender ces éléments et les mêmes éléments aujourd'hui bloquent plutôt les Congolais au lieu de les laisser avancer comme un peu ailleurs.
Ce n'est pas notre nature, parce que dans nos traditions, par exemple, un chef n'a pas de tribu, un chef n'a pas d'amis, un chef n'a pas d'ennemis. Le chef est au-dessus de la mêlée. Mais nous nous considérons qu'aujourd'hui, maintenant, le chef, quand il est là, il a ce qu'on appelle en lingala là-bas pirier. Donc, les chefs ne peuvent pas avoir des pieds parce qu'il est le chef de tout le monde. Donc, voilà, ce n'est pas dans notre nature. C'est une culture que nous devons combattre. Mais, malheureusement, au lieu de regarder les problèmes qui se posent, faire un très bon diagnostic, nous sommes dans la facilité en regardant, ce sont les étrangers, ce sont les occidentaux, tout le monde nous déteste, tout le monde nous haït, sans au préalable faire de l'introspection, nous regarder nous-mêmes d'où viennent les problèmes.
Et comment justement on peut, c'est un bon diagnostic, c'est un bon conseil, ça fait 64 ans que ce problème nous accompagne. Nous avons évoqué ici que dès les premiers mois de l'indépendance, on n'avait pas encore fait 6 mois, les problèmes avaient déjà commencé. Le président de la République et le Premier ministre ne voulaient plus travailler ensemble et ils n'ont jamais réussi à dépasser ce problème. Presque une année après, ou moins d'une année après, le Premier ministre était parti assassiné, malheureusement, et on est entré dans un cycle de flou jusqu'à ce que M. Mobutu, président Mobutu, en 65, prenne le pouvoir pour lui seul jusqu'à en 1997, où il a été chassé par un autre mouvement qui est venu prendre sa place.
Vous savez, votre téléphone, là, pour l'ouvrir, vous avez un code. Les codes pour que le Congo aille dans la direction du développement, les codes sont connus. Tout le monde les connaît. C'est juste deux éléments qu'il faut mettre pour allumer le Congo. C'est la compétence et la probité morale. Si vous mettez en toutes les fonctions les gens qui conviennent, qui ont les profils, et les gens honnêtes, je vous dis, en moins de 5 ans, le Congo surprendra tout le monde. Malheureusement, chez nous, la compétence et la probité morale ne sont pas des critères prioritaires lors des nominations.
Merci Thomas Louaka. Nous restons avec vous dans ces échanges. Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture, quelle est votre autopsie aujourd'hui au 64e rendez-vous de cet événement, du pourquoi la RDC se trouve, un peu comme disait l'ancien ministre Thomas Louaka tout à l'heure, quatrième pays parmi les pauvres?
Bon, je partage en partie le diagnostic fait par M. Thomas Louaka, à savoir en 64 ans, nous avons davantage déconstruit que construit. Et il y a des indicateurs qui peuvent nous le montrer. Nous avons hérité, par exemple, d'un État qui était administrativement bien organisé. Vous prenez la simple territoriale à l'époque coloniale, vous avez un appareil territorial qui fonctionnait, avec des habitants de territoire qui étaient souterrains. Aujourd'hui, nous avons totalement déstructuré notre système administratif avec la territoriale. Vous prenez, parce qu'on parle également d'économie. En 1960, quand on prend l'indépendance, le Congo dispose de 9600 unités industrielles. 9600. Mais en 2020, lorsque le gouvernement s'est réuni pour parler du plan industriel, on nous dit qu'il nous reste 527 unités industrielles. Ça veut dire, en 60 ans, nous avons détruit plus de 9000 unités industrielles, il ne reste que 527. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'avancée dans ce cadre-là. Vous prenez l'autorité de l'État. Vous savez, juste à l'époque coloniale, les colons nous ont laissé un État qui réussissait quand même à couvrir l'ensemble des territoires, même si on sait que jusqu'en veille de la Première Guerre mondiale, il y avait des zones qu'on ne contrôlait pas. Mais après l'indépendance, nous avons totalement déstructuré, à telle enceinte qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État, la capacité du pouvoir à gérer l'espace que nous appelons Congo, n'est plus effectif. Il y a des zones et des lieux que l'État n'arrive plus à gérer. Donc même en termes d'État, nous avons liquéfié l'État, nous l'avons fragilisé, nous l'avons déstructuré. Il y a des choses qu'on a quand même pu réussir à faire, ça il faut se reconnaître. On a quand même réussi à construire un sentiment de nation. Parce que lorsque les Belges nous ont donné l'indépendance, ils ont construit l'État mais pas la nation. Et donc nous avons réussi en 60 ans à construire un sentiment de vivre ensemble qui est partagé. Vous pouvez être à Goma, à Kinshasa, ce sentiment-là d'appartenir à un même pays, se solidifier au fil des années. Aujourd'hui, les Congolais sont fiers d'appartenir à un pays. Ça, c'est un travail qu'on a quand même réussi à construire et qu'il faut quand même reconnaître. En 60 ans, c'est peut-être l'un des grands acquis que nous avons, un vouloir vivre partagé, qui fait que le Congo tienne encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on nous parle, balkanisation, parce qu'il y a un vouloir vivre fort qui unit les Congolais. Mais si vous enlevez cette partie-là, dans l'ensemble, nous avons déconstruit l'économie, déconstruit l'État en tant qu'appareil de gouvernance, déconstruit la culture politique qui n'est pas au service d'une vision. Vous l'avez quand même rappelé à un moment donné, l'État congolais est dans un contexte très particulier. C'est que l'État en tant qu'appareil est un appareil rationnel qui est né dans un contexte géopolitique mondial assez connu, à savoir créer un cadre qui permette au capitalisme occidental de se développer et de servir de réel à l'économie monde. Ça veut dire on prend les minerais ici, on intègre l'économie monde pour consommer là-bas. C'est comme ça que l'État est né chez nous. Il n'est pas né pour être au service des peuples sur place. Il est né pour avoir un appareil qui serve de point de cueillette pour l'économie monde. Nous avons hérité de cet État extraverti, tourné vers l'extérieur, au service de l'économie monde et pas du peuple. Et nous n'avons pas travaillé 60 ans après à le retourner à l'intérieur, à s'en approprier pour faire un État au service du peuple. Nous avons gardé un État contre le peuple. La mentalité de l'élite que nous avons, c'est l'élite contre les peuples. C'est toujours une armée qui se considère comme une force publique. Donc c'est Vilaza Bilanga Konyata. On n'a pas réussi à nous réapproprier l'État et à en faire un outil au service du développement intérieur. Nous avons toujours gardé dans nos têtes, malgré l'indépendance, cette logique de typotypes modernes. Ça veut dire que vous avez des dirigeants qui se pensent toujours comme un élément d'un système global et qui participent à travailler pour l'économie monde. Lorsqu'il est ici, il répond davantage aux intérêts de l'économie monde qu'est l'intérêt des citoyens pour lesquels il est le représentant. Tant qu'on aura cette élite tournée vers l'extérieur avec cette logique de typotypes modernes qui pense être à davantage tourné vers l'égitimation internationale que vers un travail intérieur, tant qu'on ne travaillera pas à faire de l'État un appareil qui travaille pour l'intérêt de l'intérieur de la population, mais un appareil contre le peuple, on n'avancera pas. Ce sont des chantiers sur lesquels on n'a pas beaucoup travaillé, ça peut se décliner en termes de traversant de l'économie, de traversant des villes, de la répartition de la richesse nationale, il y a énormément de choses. Et puis peut-être ajouter un élément, c'est que nous avons une élite au pouvoir, un peu comme disait François Fanon, peau noire, masque blanc. C'est-à-dire une élite qui, en fait, a cherché à remplacer les intérêts ou les avantages du Mundele. Vous voyez, matriculé, qui était malmené et qui, aujourd'hui, habite Gombe. En fait, c'est l'État...
La population trouvait une appellation, le Mundele Ndombe.
Mundele Ndombe, exactement. La République de la Gombe. Ça veut dire, vous avez une nouvelle élite noire, en fait, qui a remplacé l'élite blanche, dans le même style d'appareil, mais qui n'a pas tourné l'appareil au profit de la population pour laquelle il travaille.
Conséquence. Mais Christian Moulet, vous gardez la parole, mais vous comme Thomas Loaka tout à l'heure, vous décrivez quand même une élite très dangereuse pour le développement de la RDC. Mais comment est-on la RDC est-elle passée? L'ancien ministre Loaka le disait tout à l'heure, et que selon lui, nos chefs d'avant, nos rois d'avant, la République était tournée vers l'intérêt général et pas vers le privé. Vous-même, vous décrivez nos dirigeants d'aujourd'hui comme une élite personnelle et pas tournée vers l'intérêt général. Comment le Congolais qui n'était pas comme ça est-il devenu subitement comme ça en autant d'années?
C'est un long travail de dissertation, ça pourrait prendre toute une journée. C'est que on peut prendre deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'acculturation. La colonisation n'a pas que changé l'ordre politique, il a aussi changé l'ordre mental de l'homme congolais. De telle sorte que l'homme d'aujourd'hui n'est pas l'homme colonial, il n'est pas l'homme précolonial. C'est un homme qui a été acculturé, qui a perdu tous ses repères à tout ce qui est forme de relations politiques antérieures, et qui n'est pas devenu non plus l'homme moderne, et qui est en fait un homme déraciné. Un homme déraciné qui fonde aujourd'hui son devenir par l'accumulation simplement du capital, le bien-être matériel. Et cet homme-là, qui n'a aucune attache spirituelle ni attache ontologique à sa communauté, demeure un homme qui trouve son plaisir uniquement dans une accumulation du capital qu'il rapproche du modèle occidental, donc du monde délai.
Mais est-ce que, quelque part, justement, ce que les élites congolaises sont devenues aujourd'hui, est-ce que ils n'ont pas été poussés à le devenir? Est-ce qu'ils n'ont pas été manipulés, notamment par l'extérieur, à le devenir? Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que quand on regarde les pays qui nous sont limitrophes, ces pays-là se développent. contrairement à la République démocratique du Congo. Comment sommes-nous arrivés plutôt, comment sommes-nous arrivés à ce que la RDC seule, ou presque seule, se retrouve dans cette forme d'acculturation et ne développe pas son pays pendant que les pays environnement eux avancent.
On peut chercher des réponses à cette question dans toute l'historicité politique que nous avons connue, à savoir la République et tout le travail de déstructuration de l'homme comme étant, puis l'homme comme éthique politique, avec tout le patrimonialisme politique qu'on a construit, avec le clientélisme politique qu'on a construit, avec un système de prédation qui a été mis en place, qui favorise la captation des richesses telles que M. Thomas Loka l'a relevé, et qui s'est structuré dans la durée. Et donc, ça c'est un problème d'abord qui est lié à notre problème, je dirais, interne, et qui peut trouver certes des relais à l'extérieur, parce que vous l'avez également soulevé dans votre intervention, notre première expérience démocratique a été décapitée 6 mois après. Donc on a voté le 20 mai 1960, mais ce gouvernement-là n'a pas pu faire une année. Déjà en septembre, le gouvernement était décapité. Et donc on a très vite connu un traumatisme politique qui nous a désorientés, désarticulés dans le chemin que nous avons pris, et ça nous a pris pratiquement 30 ans. Donc il y a un travail d'historicité qui s'est également appuyé à des jeux de géopolitique internationale. Le Congo a toujours été, je dirais, une sorte de convoitise à l'international, et donc l'internationalisation des questions congolaises, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça va continuer longtemps, ça participe également à déstructurer l'homme politique congolais. Mais la grande part, moi j'estime, c'est nous-mêmes, ça veut dire un leadership inspirant, un leadership qui soit au service d'une vision de gouvernance claire, c'est nous-mêmes. Le Congo est né parce qu'il y avait un Léopold II qui avait une vision pour la Belgique, à savoir trouver une colonie pour son territoire, et qui a su trouver dans l'interaction des puissances de l'époque, la Belgique n'était pas puissance, la Belgique était elle-même colonie jusqu'en 1830, donc elle était elle-même colonie. Elle est devenue indépendante en 1830, mais en 1880, elle avait une colonie plus grande qu'elle de 80 fois plus grande. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une intelligence stratégique d'un leader qui a su se positionner dans le jeu d'intérêt. Il nous faut aujourd'hui d'avoir des leaderships stratégiques, des leaderships inspirés, qui sont porteurs d'une vision, qui ne sont pas une vision simplement d'accomplissement personnel, mais d'un projet collectif pour l'intérêt du plus grand nombre. Le jour où nous aurons ce genre de leader, eh bien, peut-être qu'on passera au-dessus.
Avant de terminer cette émission, justement, on va réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant que nous connaissons notre maladie, pour donner les orientations à ce que, justement, d'ici les mois à venir, peut-être nos leaders aient envie de s'habiller, justement, des armes nécessaires pour aller vers le développement. Moïla Tchiembe, professeur, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, on a le plaisir de vous avoir, vous Congolais, mais qui avez une longue fréquentation avec l'international. Je vous pose un peu la même question avant de rebondir sur ce que vous pouvez dire. Quelle est votre autopsie des 64 années de la RDC post-indépendance
Écoutez, Guy, après avoir entendu Monsieur le ministre et notre distingué collègue Moléka, on n'a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que rappeler, par exemple, que la première idée va au plan Van Bilsen. Ce Belge distingué, dans les années 50, Thomas Loapa peut me corriger, avait estimé que la Belgique n'ayant pas formé l'élite congolaise, il ne faut pas accorder l'indépendance immédiatement, sinon le Congo va dans le mur. Évidemment, les Congolais de 1956 qui se sont réunis à l'Écoleville à l'époque, autour de Malula et Ngalula et d'autres, avaient estimé qu'il fallait soutenir le plan Valvinsen et demander à la Belgique de former des élites, c'est-à-dire envisager l'indépendance autour des années 80. Mais l'autre groupe dominant, la BACO, avait considéré que nous, les Bakongo, avons connu un État souverain, le Royaume du Congo, reconnu internationalement. Si d'autres Congolais se considèrent encore comme les sauvages, bah, ils peuvent attendre. Nous, on a besoin de l'indépendance immédiate. Je ne rappelle pas les événements du début de janvier 1960 qui ont fait basculer le pays dans le chaos et la Belgique a pleuré a accordé l'indépendance dans la précipitation. Le ministre Thomas Loaka l'a rappelé tout à l'heure. On n'avait que quelques personnes capables de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement, qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment se projeter dans le futur. Donc, à partir de là, c'est du bricolage, pour utiliser le terme de tout à l'heure. Vaille que vaille, nos vaillants grands-pères, grands-frères, à peine leur certificat d'école primaire, alors qu'on défendant ont pris ce qu'il était à prendre comme responsabilité pour tenir l'administration au lendemain du départ des Belges après la mutinerie de 5 juillet 1960, la sécession du Katanga 11 juillet, ensuite la sécession de Bapuanga, la grande crise au sommet de l'État en septembre 60, jusqu'à l'effondrement, c'est-à-dire l'assassinat de Lumumba et ses miliciens rebelles qui ont été matés avec le gouvernement de la République de Tshombe et le coup d'État de Mobutu. Donc, dans ce chaos-là, l'État a perdu, 5 jours seulement après l'indépendance, les moyens de la puissance publique, l'armée, la police, les services de renseignement, l'administration. Parce que tous ceux qui avaient cet appareil en main, notamment la majorité des Belges et autres étrangers, sont partis. Le pays a mis du temps pour pouvoir retrouver les esprits. Il fallait attendre la prise de pouvoir de Mobutu après les années 66 pour reconstruire sur la tombe de l'ANC les phases et essayer d'avoir quelque chose qui peut être considéré comme la colonne dorsale de l'État, c'est-à-dire une armée et les moyens de renseignement. D'ailleurs, je me souviens, quand on était encore étudiant, Monsieur le professeur Bundawe avait dit publiquement que s'il est des services publics qui marchent dans ce pays, ce sont les services de renseignement. Et à partir de ces diagnostics, on peut voir que Mobutu, après avoir travaillé d'arrache-pied pour faire la démonstration qu'un soldat qui n'a pas été à l'école au sens universitaire du terme peut mieux faire que les politiciens qui se chamaillaient, tribalisme aidant, etc. Mobutu a relevé ces défis, quel que soit ce qu'on peut en dire aujourd'hui ou hier, jusqu'en 1970. Mais en 70, après avoir été admiré et par les Congolais et par l'opinion internationale, notamment les grandes puissances de l'époque, y compris les communistes qui critiquaient l'Union soviétique et bien d'autres, il a été changé dans l'esprit de Mobutu en disant bah, « Le haut commandement m'avait donné le pouvoir pour 5 ans, pourquoi le remettre? Parce que tout va mieux. » Alors il fallait remplir. C'est en ce moment-là que la bascule a commencé. Mobutu, qui s'était dévoué pour relever le défi, a compris qu'il fallait avoir, comment dire, le nez sur le guidon, c'est-à-dire viser la présidence à vie. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait construit, a commencé par l'armée, par les services secrets. Et j'en passe les meilleurs jusqu'à l'UNASA. Tous ceux qui lui ont dit non, pas de présidence à vie, il a éliminé un à un, non seulement structure, non seulement les personnes qui lui tenaient la tête, y compris sa propre université, l'Université nationale du Zaïre.
Alors, professeur Moïla,
dans cette cabale,
oui, professeur Moïla, vous gardez la parole, oui. Vous gardez la parole. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour vraiment entrer dans les détails de l'histoire. Mais après Mobutu, bien évidemment, d'autres présidents sont arrivés. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Mais comme nous l'avons dit tout autour de cette table, le bilan, si n'est pas mitigé, et c'est être gentil, c'est tout simplement du gâchis. Comme beaucoup l'ont dit ici, le pays a régressé, voire même peut-être trop régressé par rapport aux acquis de l'époque. Mais dans le bilan ici, nous avons essayé de trouver des points positifs tout de même. Tout à l'heure, Christian Moleka parlait du sentiment très poussé des Congolais d'appartenir à leur pays, la République démocratique du Congo, dans les frontières qui lui ont été attribuées. Et nous avons aussi mentionné que les 4 cycles électoraux jusqu'ici réalisés peuvent être mentionnés comme étant des points positifs. Est-ce que vous partagez l'analyse sur les points positifs?
Oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait pertinent. Je voudrais tout simplement ajouter que, contrairement à la légende, depuis 1960, exception faite d'une partie de ce que je viens de rappeler tout à l'heure, le gouvernement de 1966 à 1970, ce pays n'a pas connu un gouvernement. Il a connu ce que nous appelons en droit le gouvernement, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire le mode de domination. À partir du moment où, faute de gouvernement, on conçoit le pouvoir comme mode de domination, soit par la force, au sens de Machiavel, la fortune au sens de Marx, ou le droit au sens de Weber, on a une structure qui ressemble à ce qu'on définit en sciences politiques ou en droit comme le gouvernement, mais qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là, ou ce semblant de gouvernement, ce n'est pas une capacité de faire, faire et d'interdire de faire. On est dans, entre les deux chambres, c'est-à-dire les gens ont le pouvoir, il faut un discours pour le peuple, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais l'objectif réel du pouvoir, c'est, puisque nous sommes là, il faut y aller. Alors cette perspective de s'accrocher au pouvoir, d'en faire son propre bien, quelle est la conséquence logique? Tous les moyens de l'État doivent être mobilisés pour la pérennité de ceux qui sont au pouvoir. Résultat, ce qu'on appelle au quotidien les détournements des deniers publics, la corruption, c'est le moyen même de survie du pouvoir du gouvernement. Résultat, il n'y a pas de sous à mettre sur le bien-être de la population. On en parle souvent, il y a des discours éloquents, mais en réalité, l'objectif du pouvoir, ce n'est pas de construire la nation, de construire, et même, on a parlé de la diversification de l'économie congolaise, ça fait combien d'années, tout le monde en parle, et les années passent, personne ne le voit pas.
Merci.
Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est l'absence de l'esprit de loi.
Allez-y, allez-y.
Je voulais dire que l'esprit de loi est une de difficulté, pour ne pas dire un obstacle majeur, pour ce pays. On a des textes, parfois les meilleurs, mais respecter la loi, se conformer à la loi, accepter la sanction de la loi, dans l'esprit des Congolais, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Alors, professeur Moïla, vous gardez la parole. Nous allons tendre le micro maintenant à de nombreux auditeurs qui nous suivent à travers le monde par les moyens divers, aussi bien sur nos plateformes que par FM. Vous allez entendre leurs commentaires. Ensuite, vous pourrez placer un mot s'il y a à soutenir ou il y a à démentir un élément. Nous allons écouter pour vous, professeur Moïla, Robert de Bukavu.
Robert Baume, je vous appelle à partir de la ville de Bukavu, en province du Sud-Kivu. Je pense que depuis 1960, année de l'accession de la RDC à l'indépendance, sa situation politique est restée instable. Il n'est pas étonnant que son économie et son état sécuritaire puissent aussi demeurer instables. Autant dire que l'instabilité économique et sécuritaire de la RDC est corollaire de sa situation politique instable. À cet égard, envisager un meilleur avenir pour ce pays devrait nécessairement passer d'abord par l'amélioration de sa situation politique et rien d'autre que ça. Sinon, la RDC n'évoluerait jamais sur le plan économique et sécuritaire.
Professeur Moïla Kiembe.
Ben, je pense que ce qu'il dit est pertinent, mais on l'avait déjà dit hein, en ligne de ce que les collègues Moleka et le ministre Thomas Lawata tout à l'heure, c'est ce qu'on dit, il faut lire tout ce qui s'écrit sur le Congo, même si nombre de Congolais ne lisent plus aujourd'hui, c'est ce qui était déjà dit. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Évidemment, l'instabilité, mais l'instabilité par définition est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés. Parce que, en fait, la stabilité telle que nous l'appelons, c'est le droit qui nous donne la possibilité de dire c'est stable. Quelqu'un qui a un pouvoir pendant 2 mois, 3 mois, 5 ans même de mandat, On ne peut rien entreprendre pendant 5 ans pour un pays. Avant d'accepter qu'on a fini son mandat, on s'en va et on laisse passer la main.
Professeur Moïla, professeur Moïla,
je ne pense pas que le principe. Oui.
Souvent, parmi les causes. Oui, parmi les éléments qui expliquent le mauvais état de la RDC toutes ces années, il y a le doigt pointé vers l'étranger et beaucoup de documents attestent aussi que la RDC est victime de beaucoup de convoitises. On ne dira pas dans cette émission l'action nocive, par exemple, des multinationales en Afrique, y compris en République démocratique du Congo, l'interventionnisme des pays puissants qui ont tendance à dicter leur volonté aux pays africains, y compris la RDC. Vous pensez que ces arguments peuvent avoir participé d'une certaine manière à la situation de non-développement de la RDC aujourd'hui?
Évidemment, je suis de ceux qui pensent modestement que la stratégie du bouc émissaire, vous savez, on est congolais, mais on n'a pas toujours le courage de regarder les choses en face. Si vous suivez la situation du pays depuis une vingtaine d'années, lorsqu'on parle de détournement de deniers publics, 100 millions. Et devant ces détournements, il y a toujours quelque chose de tout à fait étonnant. On vous explique le surlendemain, voilà, tel ou tel pays ou telle puissance est contre nous, on nous en veut. Non, moi je pense que la stratégie du bouc émissaire n'est pas quelque chose qui est payant. Et d'ailleurs, c'est même ridicule. Vous savez, dois-je rappeler Guy, toutes les puissances, tous les pays du monde ont à un moment ou à un autre été colonisés. Si on voit le grand pays, la Chine, avec la guerre de l'opium, notamment le Bangla peut en dire plus, la Chine, l'empire de Chine, a disparu, notamment à cause de la guerre de l'opium. Mais vous n'entendez pas les Chinois occupés par l'Angleterre, occupés par le Japon, etc. Rappeler matin, soir qu'on a été colonisé, si ça ne marche pas, même lorsque Mao a fait sa révolution culturelle et bien d'autres choses. Deng Xiaoping, remplaçant Mao, a dit aux Japonais, aux Chinois, nous devons prendre à bras le corps le sort de notre propre pays. Pourquoi ces blancs que nous avons voulu, notamment l'Angleterre, atteindre l'Angleterre, améliorer la situation de notre pays, pourquoi sont-ils toujours devant nous, malgré tout ce que nous avons conjugué comme effort, etc., avec Mao? Tout le monde est arrivé autour de Deng Xiaoping à l'idée que dans l'état actuel de nos connaissances, le seul mode de production qui crée les richesses, c'est le capitalisme. Même si la distribution est inégale, l'homme, l'esprit humain, n'a pas encore imaginé à grande échelle un autre système de création de richesses et de leur distribution. Deng Xiaoping a dit aux jeunes qui étaient autour de lui, faisons en sorte que demain, nous nous approprions nous aussi cet esprit-là. 20 ans après, la Chine est la deuxième économie du monde. Donc, au lieu de continuer à pleurer comme on l'entend matin, soir, oui, le Congo ne va pas bien parce qu'on nous en... C'est vrai qu'on peut nous en vouloir. Mais quel est le pays qui a des richesses du Congo et à qui on n'en veut pas? Ce serait même un miracle, ce serait le paradis.
Merci.
Les ressources congolaises, on va le convoiter.
Merci.
C'est légitime.
Merci, professeur Moïla Tiembe. Nous allons vous redonner une dernière fois la parole pour conclure. Christian Moleka, vous allez aussi participer à décortiquer avec nous la réflexion de nos auditeurs. Et pour vous, nous allons écouter Fabrice de Beni.
Maître Fabrice Andili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. En toute responsabilité, je pense que les politiciens doivent s'assumer de tous les désordres qu'ils ont orchestrés depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, tirant le pays vers le bas. Parce que sur le plan économique, par exemple, tous les pays du monde ont compris que l'économie est l'ami de la paix. Par là, vous comprendrez avec moi qu'aucun investisseur sérieux ne peut accepter de mettre son argent en risque. Donc, si l'économie est l'ami de la paix, vous comprendrez aussi que dans les lots d'instabilité politique, se trouve également la corruption occasionnant des enrichissements illicites au détriment fort malheureusement des bénéficiaires dont l'État est censé canaliser les 10 moyens au bénéfice de tous. Donc, en définitive, je pense que les politiciens doivent prêcher par l'exemple en vue de ramener le développement tant attendu.
Christian Moleka, votre réaction par rapport déjà à ce que le professeur Moïla Tchilembe a dit et par rapport à cet auditeur aussi.
Bon, je partage également l'avis du professeur Moïla. En fait, nous, en sens politique, on dit toujours qu'un système politique est immergé dans un environnement. On ne peut pas avoir un système en dehors de son environnement. Le Congo ne peut pas être un État isolé. Nous sommes en interaction, en interdépendance avec d'autres États. Donc, si nous voulons survivre, puisqu'il s'agit de survivre comme nation, comme civilisation, nous devons être capables d'interagir avec notre environnement, qu'il soit hostile ou non. Et nous ne sommes pas les seuls à être dans ces cas-là. Il faut développer les capacités d'intelligence stratégique pour interagir. J'ai parlé de Léopold II, qui a su, alors que c'était un petit pays, interagir entre la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour garder le Grand Congo. Donc, ce n'est pas l'intelligence stratégique qui manque, c'est peut-être notre façon de voir les choses qui pose problème. Maintenant, revenons à Maître Fabrice. Bon, je ne partage pas toujours le fait qu'on vaille aux responsabilités une partie de la communauté, à savoir les élites. Parce que nos élites politiques sont l'émanation de notre société et qui ne sortent pas de ex nihilo. Donc ils sont nous-mêmes projetés dans la gouvernance. Et si nous ne remettons pas en question comme société sous nos repères, nos archétypes, nos modèles, comme société d'abord, ben nos élites ne sont que notre reflet. Qui forme les élites? Qui porte les élites? C'est la population. Donc il y a une responsabilité partagée. Certes, les politiques ont la plus grande part, parce que les mauvais choix économiques, des réalisations, de radicalisation, des articulations de notre économie agricole, qui était d'ailleurs le Congo n'est pas devenu Congo à cause des mines, je ne parle de mines, le Congo est devenu Congo à cause de l'agriculture. Hein, avec l'EVA, le coton, on a découvert le cuivre à partir de 1914. Donc avant 1910, le Congo ne fonctionnait qu'avec l'agriculture. Mais nous avons déstructuré tout l'appareil agricole avec toutes les mesures des réalisations. Ce sont des choix politiques que les dirigeants ont pris et qui ont désorienté le pays. Et après, la corruption, c'est un choix systémique, c'est-à-dire de construire un système patrimonialiste où on tient par la richesse, l'accaparement de la richesse. Cette corruption-là est entretenue parce qu'elle est systémique, parce qu'elle sert à vassaliser les
populations.
La classe dirigeante d'abord, parce que l'accès à la mangeoire publique est tenu par le pouvoir politique, et donc puisque tout le monde veut y accéder, ce système de corruption permet de maintenir une forme d'équilibre du pouvoir en absorbant à chaque fois toutes les personnes qui veulent adhérer dans le système et donc s'y maintenir en termes d'accès à l'intérêt. Notre vrai défi en tant qu'élite, c'est de remettre en place ce mode de domination, du patrimonialisme, qui malheureusement n'est pas pour l'intérêt du pays. Et je finirai peut-être par la population. Il faut que la population prenne conscience que le développement du pays, c'est pas uniquement une affaire d'élite. C'est aussi une affaire de prise de conscience collective comme citoyen. Lorsqu'on parle d'élection, c'est d'abord les citoyens qui doivent jouer un rôle majeur dans le choix de gouvernance. Et quand on voit comment les Congolais expriment leur choix de gouvernance, on discutait avec des amis aujourd'hui, le Congolais est un coupable inconscient. Il est certes victime réelle, mais il est un coupable inconscient parce qu'il est lui-même l'auteur des choix qu'il fait dans le modèle de leadership qu'il construit et qui remplissent les stades. C'est la jeunesse. Pour 3000 francs et 5000 francs, qui remplissent les polos qui viennent chanter dans les meetings, c'est le peuple, parce qu'on donne 5000 francs. Donc s'il n'y a pas un travail de lucidité pour le peuple lui-même, pour qu'il identifie le leadership qui convient à sa vision, et qu'il s'adonne lui aussi à la petite corruption parce qu'on donne 5000 et 10000 francs, elle est co-responsable, cette population est co-responsable, autant que les élites.
Alors, Christian Moleka, nous allons partager justement très rapidement un dernier tour de parole tout à l'heure, et la question, il faut que je vous la donne avant, ce serait justement comment arriver à vaincre ces pathologies que nous avons décrites ici tout au long de l'émission. Comment arriver à les vaincre? Parce qu'on nous les connaissons. Comment arriver à les vaincre? Vous allez en dire un mot pour conclure tout à l'heure, tout comme les autres co-débatteurs de ce soir. Thomas Louaka, pour vous, nous allons prendre ce dernier auditeur.
Bonsoir Radio Kapi. Moi, c'est Ignace Ofumba de Bundu, dans la province de la Tchopo. Sur le plan politique, nous félicitons quand même une évolution de faire sortir les pays de la dictature à la démocratie. En organisant des élections, c'est un avancement malgré que la mauvaise volonté de bien pratiquer cette démocratie. Sur le plan économique, le pays a régressé avec une économie trop faible qui ne facilite pas aux Congolais de vivre comme il faut. Et sur le plan sécuritaire, le pays est torabé avec une insécurité grandissante à l'est du pays de 1996 à nos jours, qui prend de l'ampleur presque dans toute l'étendue du pays. Nous demandons la prise de conscience de tout un chacun selon ses responsabilités pour arriver à bien gérer notre patrimoine commun qui est la République démocratique du Congo. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes.
Merci à cet auditeur-là, lui aussi bonne fête de l'indépendance. Thomas Louaka.
Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec les compatriotes. C'est une avancée que nous avons faite dans la direction de la démocratie. Mais il y a quand même, on a un autre problème. Le problème maintenant, c'est quel est l'équilibre qu'il faut trouver entre la démocratie et le développement. Parce qu'aujourd'hui, on sait combien la démocratie nous coûte en termes d'élections. Vous savez, les dernières élections, ce que nous avons dépensé pour les dernières élections, on parle d'un milliard de dollars, c'est une route asphaltée qui partirait de Mbujimayi jusqu'à Bukavu. Ou de Mbujimayi jusqu'à Lubumbashi. Ou de Kananga jusqu'à Kisangani. Une route asphaltée. Et vous savez ce que ça va apporter à la population. Donc les coûts des élections, les coûts des institutions politiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un autre problème. Kinshasa, la capitale, monopolise la consommation de l'argent et le pouvoir politique. Ce qui fait que le reste du pays, nous souffrons de ce que certains médecins appellent la macrocéphalie. Hein, vous savez, il y a des enfants qui
ont une tête énorme.
Tête, par rapport, donc c'est ça. Le Congo souffre de macrocéphalie. Kinshasa consomme plus d'argent et garde plus de pouvoir que le reste du pays. Et juste pour illustrer ça, vous donnez un territoire comme Bafouassende à un administrateur du territoire pour gérer. Bafouassende, c'est plus grand que le Rwanda, plus grand que l'Ouganda. Et le monsieur, vous lui donnez, je crois que les administrateurs aujourd'hui sont à 300 dollars par mois. Vous donnez à ces messieurs-là 300 dollars pour gérer un territoire plus vaste que le Rwanda, plus vaste que l'Ouganda. Il n'a pas de moyens de fonctionnement, il n'a pas de moyens. Donc, vous voyez que le reste du pays est laissé en déshérence parce que tout se concentre à Kinshasa. Donc, je suis d'accord avec la démocratie, mais nous devons trouver un équilibre. Il ne faut pas que la démocratie hypothèque le développement du pays.
Thomas Louaka, justement, vous avez la parole pour conclure ensemble avec nous. Nous avons identifié un certain nombre de pathologies, notamment l'égoïsme, la tendance à privatiser les intérêts collectifs pour soi-même, justement la mauvaise utilisation des fonds publics, le manque de prise en perspective de ce que nous pouvons faire urgemment avec quel montant pour notamment faire développer les pays, y compris quand vous parlez des routes transversales du nord au sud. Si on pouvait mettre les 1 million régulièrement chaque année ou 2 millions régulièrement chaque année, on aurait déjà parcouru le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest avec des routes asphaltées. Qu'est-ce qu'il faut faire, connaissant le Congolais, connaissant la mentalité à la résistance au changement, qu'est-ce que le Congolais doit faire dans l'urgence pour vaincre justement cette privatisation des biens, de se rendre compte que son pays a reculé et qu'il faut le faire développer, et comment bien utiliser les fonds publics.
Il faut une nouvelle culture, mais je crois que pour le temps qui me reste là, il faut qu'on revienne au leadership traditionnel. Vous savez pourquoi nous portons nos chefs sur les chipoy? Lorsqu'on porte les chefs sur les chipoy, en fait, il y a 3-5 messages qu'on lui envoie. Le premier message, rapidement. Le chef est toujours seul sur le chipoy. Le chef ne monte pas le chipoy avec ses amis, amis et connaissances ou autres. Le chef est seul sur le chipoy. Deuxièmement, nous mettons le chef en hauteur pour qu'il puisse voir plus loin que nous tous, pour nous montrer le chemin, où est-ce que nous allons, est-ce qu'il y a des obstacles. Troisième principe, le chef, lorsqu'il monte sur le chipoy, il laisse en bas ses sentiments de haine ou d'amour. Le chef n'a plus de sentiments, n'a plus d'amis. Quatrième principe, le seul critère de décision d'un chef qui est sur le chipoy, c'est l'intérêt général. Est-ce que la décision que je vais prendre préserve les intérêts de la communauté? Et puis, cinquième principe du leadership traditionnel, on dit au chef, n'oublie jamais que c'est nous qui te portons.
Mais pour répondre à la préoccupation de Christian Moleka tout à l'heure, qui dit que l'élite, c'est aussi la population elle-même qui génère cette élite, à la population, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le médicament qu'il faut donner à la population?
Non, je pense que c'est le président, l'ancien président du Sénat, Ken Gwadondo, qui a raison sur cet aspect-là. La population a une part de responsabilité importante dans ce qui nous arrive, mais pour sortir du gouffre, cela dépend du leadership. Je comprends tout à fait, il est difficile que la société, une société gangrénée, puisse donner naissance à des éléments sains. Mais ça arrive, hein? On a vu ça dans beaucoup de pays. Ken Gwadondo dit que la seule façon de sortir du Congo du gouffre, il parle d'expérience, hein? Il a été 3 fois Premier ministre, c'est juste de trouver des groupes de Congolais qui ont ces deux qualités, la compétence et la probité morale ou le patriotisme à fond. Donc lorsque vous avez ces gens-là au poste clé dans ces pays, les pays vont se développer et la population va suivre.
Merci à vous Thomas Luaka. Christian Moleka, les médicaments pour les maladies que nous avons identifiées au sein de l'élite, de la RDC, mais aussi au sein de sa population.
Pour l'élite, une prise de conscience collective que les États ne sont pas éternels. Parce que les Congolais, nous pensons que les États sont éternels. Les États disparaissent. Vous regardez la carte du monde, l'Autriche-Hongrie a disparu, la Yougoslavie a disparu, le Soudan a disparu à côté. Donc il ne faut pas être surpris un jour si le Congo peut aussi disparaître. Les États ne sont pas éternels. Si on ne prend pas conscience que nous avons un pays qui est au cœur de tous les enjeux géostratégiques et nous nous comportons comme des enfants, eh bien, comme à l'enfant, on va nous arracher la banane et nous allons pleurer après. Pour la population, je prends l'anecdote de mon aîné Thomas Luaka, mais à ma manière, le chef est sous le tupoi parce que le peuple le porte. Le jour où le peuple refuse de le porter, il est par terre. Il faut que le peuple prenne conscience que c'est lui qui porte les tupoi. Tout simplement.
Merci, Christian Moleka. Professeur Moïla Tiembe, avec toute l'histoire que vous avez aussi avec la culture à l'international, tout en ayant votre propre culture congolaise, tout ça mis ensemble, vous qui voyez les États occidentaux prospérer et avec votre culture congolaise, quel est le conseil? Quel est le médicament que vous donnerez ce soir à toutes les parties prenantes pour que dans un mois ou peut-être dans une année, la RDC soit beaucoup mieux que ces pays développés d'aujourd'hui?
Je pense qu'il faut aller dans le sens de M. Thomas Luaka qui a parlé du leadership. Il y a deux types de leadership. Il y a le leadership collectif, il y a le leadership individuel. Je donne un exemple, un enfant qui naît avec un don de mathématiques, un don de football. Si cet enfant naît dans une société où le football n'est pas organisé par l'État ou par un gouvernement comme une profession, comme un métier, avec des équipes, etc., etc., cet enfant ou cette personne grandira, mourra avec son don de football. Et j'ajoute que le leadership individuel est intéressant parce que les gens doivent se défoncer et essayer de sauver leur pays.
Professeur Moïla Tiembe, qui malheureusement, on ne sait pas pour quelle raison, mais le téléphone a souvent des caprices, c'est parti, mais nous avons entendu l'essentiel. Professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, merci à lui, merci aussi à Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Grand merci également à Thomas Luaka, passionné de l'histoire de la RDC, député national honoraire, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Noël Mokondo, Guy Maté, Clément Chimanga, Hervé Voka, Jean-Claude Nsiala m'ont aidé à produire l'émission de ce soir. Dona Madine Bassemo à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.